Prêt ? Moteur !
Yves Boisset, le cinéaste des faits divers réels. Dans Dupont la joie, c'était le racisme. Dans RAS, la guerre d'Algérie. Dans Le Shérif, la police, la justice. Boisset, en effet, essaie toujours d'apporter dans ses films un regard, une vision réaliste sur la société qui nous entoure.
Pour cette seconde visite dans le cinéma d'Yves Boisset, je tenais à commencer par deux films où une femme est au cœur du scénario. Il s'agit tout d'abord de La Femme Flic, film sorti en 80. Bonjour et bienvenue dans cette 20e visite de la saison 8 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, 107.3 au Mans, et radioalpa.com partout ailleurs. En plein tournage, le réalisateur et l'actrice principale donnent une interview pour la télévision. Ils sont dans le bruit de la rue, nous sommes là dans le nord, vers Lille.
Miu Miu tient le rôle de la femme flic. Savez-vous que sur 15 000 inspecteurs en France, il y a 600 femmes flics?
Bon, être flic, vous trouvez que c'est un métier de femme?
Je vais vous dire une phrase du film, c'est moins dur qu'à l'usine.
À la fin de sa première journée dans son nouveau commissariat, seul le collègue venu la chercher à la gare semble agréable et bienveillant. D'ailleurs, saurez-vous reconnaître l'acteur qui joue le commissaire ?
Il y en a pas pour longtemps. Alors, ça va ? Vous habituez ici ? Vos collègues sont gentils ?
Très gentils.
Bon. Enfin, si quelque chose ne va pas, vous me le dites, hein ?
Monsieur le commissaire ?
Oui ?
Quand est-ce que je ferai autre chose ?
Autre chose ?
Bah oui. Délivrer les permis, classer les rapports. Je sais bien qu'il faut que quelqu'un le fasse, mais...
En effet, il faut que quelqu'un le fasse. Et jusqu'à nouvel ordre, ce sera vous?
C'est du boulot de stagiaire, ça. Je suis inspecteur. Je suis pas rentré dans la police pour brasser des paperasses.
Écoutez, mademoiselle. Vous avez été affectée ici sans qu'on me demande mon avis. Vous avez peut-être 50 boutiques, mais vous êtes encore très jeune. Et en plus, vous êtes une femme. Je viens pas vous envoyer sur des affaires délicates. Et encore moins des missions dangereuses. Vous avez de l'ambition, c'est très bien. Un jour, vous serez peut-être commissaire, à ma place. Mais en attendant, il faut vous contenter de faire ce qu'on vous demande. Ce sera déjà pas mal.
Et oui, c'est Jean-Marc Thibault dans un rôle bien loin de Roger Pierre et du feuilleton Maggie. Si la condition féminine dans un travail alors considéré comme masculin est un premier palier du film, c'est loin d'être le seul. Boisset, peu avare en sujets qui remuent les tripes, s'offre ici un horizon vertigineux pour un premier traitement jusque-là impensable dans le cinéma français d'alors. Le cœur du sujet, qui manque terriblement d'humanité et d'amour filial et tellement il est crasse, reste inconcevable encore aujourd'hui et pourtant, hélas, a priori, parfois bien réel.
Ici, il s'attaque à un dossier scabreux et délicat, la prostitution des enfants à travers une histoire policière. Un sujet qui est abordé pour la première fois dans le cinéma français.
Le phénomène qui est tout à fait inquiétant, c'est qu'il semble que la prostitution des enfants et l'exploitation érotique ou pornographique des enfants soient actuellement terriblement en développement en France.
Boisset a rencontré de nombreux policiers, enquêteurs, assistantes sociales qui se trouvent confrontés à ce problème, un véritable fléau.
C'est assez hallucinant, mais il n'y a pas d'âge. On voit des enfants de 6, 7 ans qui sont prostitués par leurs parents dans des conditions souvent...
Vous en avez rencontré ?
Oui, absolument, j'ai parlé avec des petits-enfants.
Ils sont conscients, ces enfants ?
Quelquefois, oui, assez tragiquement, et qui sont souvent issus de milieux extrêmement modestes. Et qui donc ont parfois une vision extrêmement bouleversée des choses et qui sont conscients surtout d'ailleurs du fait qu'ils sont utilisés.
Parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'on leur donne de l'argent.
Oui, et qui n'ont qu'une idée, c'est d'être grand pour pouvoir profiter de l'argent qu'on leur donne.
Parti de plusieurs faits divers, notamment un en région parisienne, il n'hésite pas non plus à évoquer au loin les prises de parole d'intellectuels, avec plus ou moins de guillemets, dans une presse de connivence, telle le Libé de l'époque, et qui ressurgit cette année dans un dossier rue du Bac.
Ça touche des personnalités assez importantes, la prostitution enfantine. Vous voyez, c'est le bas de l'échelon, c'est les enfants. Là-haut, c'est plus là-haut que j'atteins, que j'essaie d'avoir quelque chose. Oui, absolument.
Certains ont cru reconnaître qui un sosie de Marcel Dassault, qui une autre personnalité. En tout cas, Boisset évoque une ville clairement redevable des investissements d'une seule famille d'industriels, comme cela exista fort longtemps, exemple pris de celle de la famille des sucriers Béguin, dont Louis Malle fut membre malgré lui.
Ici, c'est la cité de Schuller qui loge 3000 ouvriers. Il y a aussi la chaîne des magasins de Schuller qui les habille et les nourrit. Ça, c'est le boulevard Maxime de Schuller. Et voilà la banque de Schuller.
Ils ont aussi une banque ?
Deux banques, les mines, la fonderie. Et puis, pour la bonne conscience, il y a même l'hôpital de Schuller. Voilà le stade de Schuller. Là-bas derrière, la piscine de Schuller.
Et comment il est, ce nabab ?
Une vieille momie de 84 ans qui tient sa famille sous une poigne de fer. Ah, c'est toute une dynastie, les deux Schuller. Tenez, ils étaient déjà là sous Napoléon III. Ils ont survécu à tous les régimes.
Vous avez l'air bien renseigné. Vous n'êtes pas d'ici pourtant.
Avant, j'étais à Mulhouse.
Adapté du roman de Manchette, le film part d'un principe en fait assez simple. Une jeune femme, jouée par Malène Jaubert, sur laquelle je reviendrai, sort d'un asile psychiatrique.
Présentation du film de 75, Folle à tuer, par Jean-Baptiste Torret, en septembre 2022.
Et tout de suite embauché par une sorte de chef d'entreprise, un riche industriel, joué par Michael Lonsdal. Et elle va avoir pour tâche de s'occuper d'un enfant orphelin dont les deux parents ont disparu dans un accident. Donc elle débarque dans le siège de ce chef d'entreprise, une sorte de gigantesque structure, une tour à la Défense. Elle débarque donc là. Et elle a la charge de s'occuper de cet enfant.
Thomas est très en retard pour son âge, alors vous allez lui apprendre à lire et à écrire correctement, et puis surtout, à être heureux.
Je ferai de mon mieux. Vous savez, je ne suis pas grand-chose. Un petit grain de sable.
Mais rien ni personne n'est inutile, Julie. Qui vous dit qu'un grain de sable n'est pas aussi important qu'une étoile?
Dites-moi, monsieur Mostry, cette maison-là, c'est quoi?
Ah, ça? C'est plutôt moche, non? Bien, Mostry avait acheté ça dans les années 20. Il appelait ça pompeusement la Thébaïde. Ah, je voudrais en faire un centre de repos et de recherche pour les grands musiciens de ce temps. On y jouera aussi des concerts l'été.
C'est une idée formidable.
Vous trouvez?
Ah oui.
Ah, vous êtes vraiment la seule. Tout le monde me dit que c'est une idée de fou. Moi, je prétends que c'est le chat du Cheshire qui avait raison. Le chat du Chachar était assis sur une grosse branche et il souriait. Alors de quel côté faut-il que je me rende, lui demande Alice. De ce côté-ci, vous avez le chapelier, et de ce côté-là, vous avez le lièvre de Mars. Allez trouver celui que vous voulez, tous les deux sont fous. Ah, mais c'est que je veux pas rencontrer de fous, proteste Alice. Alors le chat lui répond, mais ça, vous pouvez pas l'éviter. Tout le monde est fou. Vous êtes folle, je suis fou. Dans ce pays, c'est un état normal. Puis peu à peu, le chat du Cheshire devient invisible. Et seul son sourire demeure suspendu quelque temps dans l'air, après que tout ait disparu.
Le film est passionnant puisqu'il met en scène, on pourrait dire, d'un côté une forme de folie, d'où le titre du film, Folle à tuer, hein, cet asile psychiatrique qui est une sorte de vivier pour ce chef d'entreprise assez inique, hein, incarnation totale du capitalisme qui embauche d'anciens fous, où on ne sait pas s'ils le sont d'ailleurs toujours ou pas, à son propre service, manière de décrire cette espèce de structure capitalistique comme un endroit de folie et de perversion, et puis Marlène Jaubert qui, elle, est en pleine convalescence et qui, évidemment, ne saisit pas la différence, au début du film en tout cas, entre la normalité supposée du monde extérieur et l'asile qu'elle vient de quitter. Et on va se rendre compte évidemment que l'asile de fou, c'est pas du tout l'endroit qu'elle vient de quitter, c'est plutôt dans le monde dans lequel elle vient de plonger.
Alors, tu commandes maintenant? J'aime pas les noces, c'est pour les pauvres.
C'est du dégueulasse que ton oncle, toi, t'as qu'à bouffer de la merde, petit con.
Je crois que ce soir, Thomas va aimer les nouilles. Dis-nous tout de suite comme tu les aimes, les nouilles.
J'aime les nouilles.
Alors bouffe.
Et elle est entourée d'un casting absolument génial. Jean Bouise, un des acteurs récurrents des films d'Yves Boisset. On a Michael Lonsdal, hein, absolument formidable dans le rôle de ce chef d'entreprise absolument pervers, inique, calculateur. Hein, génial, on a presque le sentiment qu'il prépare le rôle qu'il jouera dans le James Bond Moonraker.
Et alors, vous sortez bien d'un asile?
Malade, c'est tout des dingues.
Nous sommes tous fous. Bonne chance.
1, 2, 3, 4.
Et tout à coup, le coq au loin claironne. Cocorico, debout, petit soldat. Le soleil nuit, partout le canon tonne. Jeune héros, voici le grand combat. Et Verdun, la victorieuse, pousse un cri.
Allez me chercher votre chalumeau.
Chalumeau, sortez les rangs!
Élève Chalumeau Timon, première section, matricule 2154, mon capitaine.
Ainsi, Chalumeau, vous ne voulez pas chanter?
J'aime pas ces chansons-là, mon capitaine. Et puis pour chanter, faut être gay.
Et vous n'êtes pas gay, Chalumeau? Expliquez-vous.
C'est à cause de la vie ici, mon capitaine. Moi, j'ai pas demandé à y aller aux enfants de trou. C'est mon père qui m'a mis là.
Assez! Vous plierez! Je vous en donne ma parole!
Allons enfants est l'adaptation d'un livre admirable de Yves Gibault.
Après RAS et l'expérience traumatisante des appelés dans l'Algérie en guerre, il fallait bien que Boisset revienne sur l'armée et sur Radio Alpa en évoquant même un type d'internat à la dure, la très dure, dont il est beaucoup question en ce moment dans le Béarn ou ailleurs. Quand je vous dis que chacune des visites du Panthéon des Cousus ont des échos actuels, en mars 81, l'année de la sortie du film, Yves Boisset et l'acteur principal sont interviewés par France 3, Bordeaux-Aquitaine.
Qui raconte l'enfance et l'adolescence de Yves Gibault, qui a eu le malheur d'être placé dans une école d'enfants de troupe par sa famille. Et au-delà du problème des enfants de troupe en soi, le film se passe de 1936 à 1939, c'est l'histoire d'un adolescent auquel on vole sa jeunesse et qui se trouve en butte aux brimades à la fois d'une famille extrêmement répressive et d'une institution qui par essence même est relativement répressive, c'est-à-dire les enfants de troupe.
Mets-moi la maison, papa, je suis pas heureux.
Sortez-moi, salopard ! Essuyez-vous, Chalumeau. Vous allez souiller votre uniforme. Allez, lève-toi ! Lève-toi, mon Dieu.
Mais ils sont bérés convenablement, là.
Le père n'est autre que Jean Carmet qui, à quelques mois près, tourne La soupe aux choux, deux films, deux ambiances. Et son fils, le jeune Chalumeau, belge dans le civil, va devenir lui aussi un grand acteur et cinéaste.
Lucas Bellevaux, vous avez quel âge ?
19 ans.
Alors est-ce que vous imaginiez, il y a un an environ, qu'il avait pu exister avant 1939 des situations de garçons de votre âge telles que celles de Chalumeau, et des situations, comme nous disait Yves Boisset, que l'on peut retrouver encore à l'heure actuelle ?
Bon, à ce point-là, je ne sais pas si j'osais y penser, si j'osais y croire. Mais j'en connaissais, j'en ai connu pas mal qui étaient assez analogues dans des lycées encore maintenant.
Qu'est-ce que vous venez foutre là? Vous savez pas que c'est interdit de remonter dans les chambres après l'appel? Disparaissez!
Vous voulez que je vous fasse dégringoler les étages en quatrième vitesse? Lâchez cette valise, Chalumeau.
Non, cette valise m'appartient. Dedans, il y a des livres que M. Brivoulet m'a donnés. Je veux pas qu'on me les confisque ou qu'on les abîme.
Chalumeau, lâchez ça ou ça va chier votre matricule. J'ai pas l'habitude qu'un élève me tienne tête. C'est compris?
Couvrez-vous, Chalumeau! Pour la dernière fois, lâchez cette valise sans ça! Je sais pas, vous avez pas le droit de me frapper! Tout ici, vous pensez qu'à ça, cogner, toujours dérouiller!
Ça vous apprend la vie, moi, sale canard, lâchez pas!
Je crois que c'est un problème tout à fait intemporel, parce que je crois que les adolescents de 1981 peuvent se retrouver parfaitement dans les problèmes justement d'un garçon sensible, intelligent et qu'on destine par force à la carrière militaire.
J'en ai marre, trop marre, marre de vous, marre de cette école, marre de mes parents. Et si vous approchez, je saute.
Je vous en défie.
Vous avez tort. Je n'ai pas, sergent. Puis moi, je vous emmerde.
J'espère qu'ils en pensent, tiens, tu !
Sergent !
Là, faut imaginer d'expressifs bras d'honneur.
Il y a toutefois une réponse que vous devriez donner à tous nos amis ici présents et à tous nos téléspectateurs. Il se pose la question suivante : pourquoi ? Quelle a été la motivation pour laquelle vous avez accepté de vouloir tuer notre ami François Jacquemart devant nos caméras ?
Un candidat a 5 heures pour échapper à 5 tueurs lancés à ses trousses dans une ville. S'il réussit, il gagne une fortune. Un sujet à la limite de l'insupportable et je pèse mes mots.
Ça, c'est ce que dit le journaliste du JT en 83.
Bon, au départ, Le Prix du danger, c'est un grand film d'action extrêmement spectaculaire qui débouche sur une réflexion sur la violence et sur l'utilisation des médias, en particulier de la télévision. Bon, mais on ne reproche pas à Mad Max, par exemple, qui lui ne se pose aucun problème sur la violence, de ne pas dénoncer la violence. Alors, au contraire, Le Prix du danger est en même temps une sorte d'avertissement sur ce que pourrait devenir la télévision
si on n'était pas très vigilant et si on ne faisait pas attention à la façon dont sont exploités certains jeux télévisés aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple.
Moi, c'est pareil. Presque toutes les nuits, je rêve que je tue quelqu'un avec un couteau. Remarquez, je le ferai jamais à cause de la prison. Il paraît qu'il s'y passe des choses horribles en prison.
À l'époque, l'émission d'Inter, Le Masque et la Plume, avait encore une partie interview où le réalisateur échangeait avec les critiques.
La réalité, qui galope très vite, a un peu rattrapé la fiction.
On n'en est pas là.
On n'en est pas loin.
Pas là.
Pas très loin dans la mesure où il y a un certain nombre d'émissions de télévision, pas en France ou indirectement en France, mais en Amérique, en Allemagne, qui, pour des jeux télévisés d'une cruauté assez exceptionnelle quand même, mettent en cause la vie des candidats qui se retrouvent estropiés, mutilés, ébouillantés, échaudés, brûlés vifs quand ils n'y laissent pas leur vie.
Quel bon scénario pour Yves Boisset.
Je ne sais pas si c'est un bon scénario, mais probablement pas pour ceux qui y ont laissé leur peau.
Notre ami, François Jacquemart, c'est Gérard Lanvin, alors en pleine gloire et en pleine forme, son rôle est hyper physique.
Et dans le contexte dans lequel il évoluait, je me suis dit que finalement, aujourd'hui, on avait une possibilité de trouver ce genre d'individu dans la rue, tout simplement, un type qui s'ennuie, qui n'a plus rien, qui n'a plus d'espoir, plus de rêve, et à qui on propose $1 million, donc radicalement changer toute sa vie. Dire que par les temps qui courent, on devrait pouvoir trouver des candidats au prix du danger assez fréquemment maintenant.
Vous lui faites un film comique ?
Je trouve extrêmement sain que le public s'amuse pendant une heure de ces personnages qui sont effectivement des projections dans l'avenir de gens qu'il peut voir quotidiennement à la télévision. Il a la présence d'esprit et l'humour, parce que je pense que le public est plein d'humour, d'en rire quand il les voit projetés dans l'avenir dans une satire de science-fiction.
Vraiment science-fiction ? À l'instar de l'excellent film de Tavernier avec Romy Schneider, La mort en direct, Le prix du danger, CSF il y a, révèle des mauvais plis pris par une télé cynique, particulièrement peut-être certaines chaînes commerciales des années 2000. Ici, le présentateur vedette, c'est Michel Piccoli et le patron de chaîne, c'est Bruno Kremer, qui sont deux habitués du cinéma d'Yves Boisset. Dans le bureau, il y a également Marie-France Pizier, dans les bras de Jean-Paul Belmondo et dans l'As des As. Et Catherine Lachance forme taille 4 une équipe de choc 4 étoiles.
François Jacquemart atteint une cote de popularité bien supérieure à tout ce qu'on pouvait espérer.
Je dirais même qu'aucune vedette de musical ou de cinéma, aucun homme politique, aucune célébrité n'a jamais été aussi haut. 17,9, mais c'est le record absolu.
C'est fabuleux, ça, un homme qui exerce une telle fascination sur les gens, mais ça n'a pas de prix.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser ?
Elle veut dire qu'avoir fabriqué une telle vedette pour la tuer aussi vite, c'est un peu absurde, vous trouvez pas ?
Mais Laurence a raison. Les autres étaient abattus comme prévu à la fin de l'émission, mais Jacquemart a atteint une telle notoriété, un tel impact.
C'est vrai, ça, il serait peut-être plus avantageux de le laisser gagner. On lui fait un contrat et nos annonceurs l'achètent à prix d'or.
Bon, Espion lève-toi d'Yves Boisset, sorti en 1982, ça ne rigole pas.
Quel est votre problème ? Ben pour le moment, c'est vous.
C'est de l'espionnage façon série noire, avec Lino Ventura en agent secret en sommeil qui connaît un réveil en fanfare vu qu'on lui abat un à un ses anciens camarades de jeu. Michel Piccoli se présente comme son supérieur mais est assez inquiétant.
C'est la place Beauvau qui vous a chargé de me chapitrer. Non, non, non. C'est une initiative strictement personnelle.
Bruno Kremer dit aussi qu'il est son chef, mais fait assez peur.
Tant pis pour vous, Grenier.
Bref, Lino est dans la mouise et on tremble pour lui.
Après Entrée libre en 2017 sur France 5 avec Claire Chazal, le 20h de TF1 du 24 janvier 82, sans Claire Chazal.
C'est un thriller, c'est-à-dire au sens original du terme, un film qui vous fait frissonner, qui vous donne envie de savoir ce qui va se passer à la séquence suivante. Mais en même temps, je crois que c'est aussi un des rôles du cinéma, un des rôles importants du cinéma, de rendre compte un petit peu de ce qui se passe autour de nous. C'est à travers une histoire policière, c'est aussi une réflexion sur le terrorisme et sur la façon dont les terroristes sont de bonne foi manipulés par les différents services secrets, souvent les services secrets de l'Est, parfois les services secrets américains et parfois aussi, comme le montre le film, les services secrets français.
On est tous captivés et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Et voilà une petite info rien que pour vous afin de le prouver. Fallait-il que la voix off soit à ce point passionnée par le film pour avoir tant de mal à mettre les pendules à l'heure ?
Samedi 26 septembre, 11h23.
Après avoir bien fait son boulot d'horloge parlante durant le premier tiers du film, il commence à déraper ici.
Zurich, gare centrale, mercredi 30 septembre, 14h25.
Oui mais non. Quand la petite aiguille est entre le 11 et le 12 et la grande sur le 9, il est 11h45. Nouveau petit dérapage ici.
Munich Aéroport International, jeudi 1er octobre, 15h50.
C'était bien tenté car l'horloge est un peu cachée, mais à moins qu'elle ne retarde méchamment, il est 15h35. Allez, essaye encore.
Bon, faut pas en vouloir à la voix off, c'est un comédien en chair et en os qui lit un papier qu'on lui donne, et non une IA. D'ailleurs, l'acteur s'appelle Robert Dalban, un récurrent du cinéma populaire. Exemple avec Un idiot à Paris de 67.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais.
Et moi je trouve absolument rien, au contraire, de méprisable à vouloir atteindre le plus large public possible. Et je crois que c'est très important, et le cinéma français en a terriblement besoin, de faire un cinéma qui soit en même temps un cinéma ambitieux, mais aussi un cinéma populaire. Et je crois qu'il y aurait quelque chose de tout à fait sottement aristocratique à vouloir faire un film, un cinéma qui soit réservé à une élite. Et moi, ce que je crois, c'est que surtout quand on parle de choses importantes, et la manipulation des idées en est une, par exemple, il faut en rendre compte dans les termes les plus spectaculaires possibles. Et puis d'abord, le spectacle, c'est la vocation première du cinéma.
On peut avoir du succès et des ennuis.
De toute évidence, Barracuda est le projet qui n'a jamais vu le jour, mais que je regrette le plus.
Quand on s'approche un peu trop près de sujets trop chauds pour ces minettes, jamais sur vos écrans, avec Jean-Baptiste Torret en février 2016.
C'était un film qu'on avait écrit avec Jean-Patrick Manchette et qui traitait du commerce des armes. C'était l'histoire d'un aventurier qui a un petit avion en Afrique et qui fait du transport d'armes, bien entendu illicite, mais pour le compte de la DGSE. Jean-Paul Belmondo devait coproduire le film, jouer le rôle principal, entouré, ce qui aurait été quand même proche du rêve, de Jeanne Maria Volonté, Charlotte Rampling, James Coburn et Bernard Blier. Et puis, le premier coup de poignard, ça a été le fait que, au dernier moment, Jean-Paul Belmondo s'est désisté. On lui a vivement déconseillé de tourner ce film, de produire ce film en particulier, sous peine d'avoir de gros ennuis et éventuellement d'y laisser sa société. Il est tout à fait évident que M. Charras, ministre du budget de Mitterrand à l'époque, grand démocrate s'il en est, était intervenu avec une certaine vigueur. J'ai tenté de remonter le film avec Gérard Lanvin, dans le rôle principal, mais évidemment dans une structure plus modeste. Là, à ce moment-là, coïncidence regrettable, j'ai eu un contrôle fiscal carabiné qui m'a vraiment mis à genoux, alors que je n'ai jamais fraudé un centime. D'ailleurs, j'ai fini par avoir raison, après 10 ans, mais après avoir eu les pires ennuis et l'impossibilité de faire le film, puisque le film n'avait plus de stars, il n'avait plus de distributeurs, il n'y avait plus de film. C'est vraiment cette censure économique et l'organisation jacobine du cinéma français qui font qu'il est devenu impossible de trouver le financement de films qui auraient été un petit peu insolents ou un peu critiques par rapport aux institutions. Quand j'ai fait mon service militaire pendant la guerre d'Algérie, je me disais, si un jour je suis metteur en scène, je ferai Allons-enfants. Et j'ai fait Allons-enfants 23 ans après. Donc rien n'est jamais perdu. Moi, je suis d'un pessimisme joyeux que rien ne peut entacher.
Ainsi va se clore cette seconde visite à Yves Boisset et son cinéma ? Pas tout à fait. Diffusion les samedis et lundis midi et le jeudi à 17h30. Podcast à venir sur toutes les bonnes plateformes et la page de l'émission sur radioalpa.com. Mais nous n'y quittons pas sans musique et sans la marche composée par Ennio Morricone pour Espion Lève-toi en 82. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, ne vous croyez pas trop espionné. Si ça se trouve, c'est déjà une réalité.
C'est moi que t'attends ?
Oui, j'ai voulu vous parler.
T'as beaucoup de chance, Dieter. Parce que je te crois.
Thank you.
ne bougez plus, merci.